il est 11h sur Radio Campus Tours. Bienvenue si vous nous rejoignez, chers auditeurs, chères auditrices. Nous sommes très exactement le 6 mars. Alors, si vous faites un calcul, vous vous rendrez compte que mercredi, nous serons le 8 mars. Alors ça a son importance, oui, parce que c'est une journée particulière, le 8 mars. Et voilà, je vous invite dès à présent à consulter sur notre site la programmation spéciale que nous faisons à Radio Campus Tours autour de cette journée internationale pour les droits des femmes. Il y aura des captations de tables rondes, des conférences, des émissions féministes de France et de Navarre, une playlist, allez-y, regardez tout ça sur notre site, c'est tous les jours, voilà, des horaires différents. Donc évidemment, c'est tout de même plus simple en allant consulter la page dédiée, mais pour l'heure, c'est la Méridienne. Alors, comme on aime rire à Radio Campus, je vous propose de découvrir, en écoutant un extrait sonore, quel sera le sujet de cette émission. Et après, je donnerai la parole à mes deux invités, puisque j'ai le plaisir d'avoir en studio avec moi deux invités de prestige. C'est parti, un extrait sonore que les moins de 20 ans pourront ne pas connaître.
Je n'ai pas qu'un physique, j'ai aussi un cerveau. Si des capfours éliminent la graisse brûlée dans le four, il peut très bien nettoyer ma cuisinière et ma cocotte. Ça aide un cerveau. Des capfours, partout la graisse est brûlée.
Voilà Dominique Lavanant qui nous rappelle en 1996 dans cette inimitable pub pour des capfours que ça aide d'avoir un cerveau. C'est pas mes invités qui vont me contredire car aujourd'hui nous allons parler de la semaine du cerveau qui se tiendra du 13 au 19 mars 2021 avec moi en studio Ida Tesla. Bonjour Ida.
Bonjour.
Alors dramaturge et metteuse en scène de la compagnie Pipo, est-ce bien ça?
C'est ça, et bon, pour faire un peu comme c'est lundi matin, il faut faire fonctionner votre cerveau. Donc c'est Pipo, c'est P-I-H-P-O-H, et donc c'est hip-hop à l'envers.
Voilà, et donc cette semaine du cerveau, tu nous en diras plus, un peu plus avant dans l'émission, parce qu'il y a dans la programmation un spectacle proposé par la compagnie Pipo 10, D-Y-S sur 10, D-Y-S. Donc ce n'est pas un spectacle que sur la dyslexie, hein, disons-le d'emblée. Mais voilà, je maintiens le suspense.
Et oui, je t'embête parce que c'est D-Y-S sur D-I-X.
Ah ben voilà, voilà, vous voyez, voilà. Malgré toute la
c'est
bonne volonté du monde,
pour tout le monde
et... on se trompe. Mais ça ne parle pas que de dyslexie, on le dit. Voilà, j'allume le micro sans transition de notre deuxième invité. Bonjour Yves Tillet.
Bonjour.
Alors vous êtes directeur de recherche à INRAE, donc sur le site de Nousilly, je crois. Voilà, vous êtes directeur de recherche de l'unité physiologie de la reproduction et des comportements, est-ce bien ça?
C'est tout à fait cela.
Alors est-ce que vous voulez nous expliquer un peu en quoi consiste cette semaine du cerveau? Parce que certes, elle se tient autour du 13 au 19 mars 2023, mais c'est un événement national.
Oui, c'est même un événement international puisqu'elle va se dérouler dans plus de 100 pays en même temps à travers le monde. Et en fait, c'est une campagne d'information du public organisée par les chercheurs des différents laboratoires, essentiellement du chercheur du public. Et donc, le but est de parler des derniers résultats de la recherche sur le cerveau et d'expliquer, je dirais, pourquoi cette recherche, pour qui, à quoi elle sert, et donc d'en montrer toute la portée.
Voilà, donc c'est porté aussi par la Société des neurosciences.
Oui, en fait, dans chaque pays, il y a un relais pour organiser cette semaine. Et en France, c'est la Société des neurosciences qui regroupe à peu près 2500 chercheurs qui travaillent dans le domaine des neurosciences, donc un domaine très très large. Et oui, j'ai juste oublié de dire tout à l'heure que cette semaine, elle est orchestrée au niveau international par une fondation qui est la fondation Dana, du monsieur Charles Dana, qui a mis en place cette semaine du cerveau. C'était en 1995 ou 16, je crois, aux États-Unis. Et dont le but était de promouvoir les recherches sur le cerveau. Et puis, pour un clin d'œil à la journée du 8 mars, c'était aussi pour promouvoir l'éducation des femmes, qu'il a consacré sa fortune.
Voilà, alors peut-être expliquer à nos auditeurs, mais à quoi bon autant d'événements sur le cerveau? Pourquoi c'est aussi important d'étudier le cerveau?
Oh, pour plein de choses. La première chose, c'est l'importance de cet organe au niveau de notre organisme. C'est l'organe le plus important. C'est lui qui nous fait tel que nous sommes. Hein, c'est lui qui va mettre en place nos différentes capacités intellectuelles, nos comportements. C'est lui qui va nous faire avec notre caractère, donc notre individualité. Donc de ce point de vue-là, c'est quelque chose de très particulier, de très important. Et puis, bah, malgré tout, on ne sait pas toujours très très bien comment il fonctionne. Et donc, c'est important de bien décrypter son fonctionnement et au-delà, essayer aussi de pouvoir corriger, entre guillemets, ses défauts et les maladies qui en découlent. Donc la recherche, elle va avoir cette fonction, comprendre comment fonctionne le cerveau dans le but, dans un premier temps, on va dire, de corriger un certain nombre de maladies. Les maladies du cerveau sont extrêmement nombreuses et importantes. Hein. Je crois que, je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais je crois que c'est un tiers des coûts de santé en Europe sont imputables aux maladies du cerveau. Donc c'est un coût très important et puis c'est un handicap majeur pour un certain nombre de pathologies. Et puis l'autre aspect, c'est aussi de pouvoir appliquer, je dirais, les résultats de la compréhension du fonctionnement de notre cerveau à différents domaines. Et je pense entre autres à l'éducation. Il y a pas mal de résultats qu'on a pu acquérir, notamment sur la façon dont le cerveau va retenir des informations, dont on va pouvoir apprendre. Et donc, en fonction de ses connaissances, on va pouvoir utiliser ses capacités de la façon la plus adaptée possible et donc mettre en place des méthodes d'enseignement qui vont être tout à fait en phase avec la façon dont fonctionne notre cerveau, par exemple.
Voilà donc les troubles de l'apprentissage, mais peut-être aussi certaines maladies, donc plus ou moins rares. Peut-être que vous voulez en dire un mot aussi.
Bah, y a des maladies très connues du cerveau qui sont les maladies neurodégénératives, par exemple. Hein, si on prend la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie que tout le monde connaît, je pense. Tout simplement parce qu'on a beaucoup de chance d'avoir dans son entourage quelqu'un qui en est atteint. Des grands-parents, des personnes de voisines, etc. Et donc, c'est une maladie qui se caractérise là aussi par des troubles de la mémoire. Hein, c'est le premier signe et puis c'est un petit peu ce qui la caractérise. Et donc, c'est une maladie qui est caractérisée donc, par une diminution de population de neurones dont on ne connaît pas vraiment l'origine. On ne sait pas pourquoi ces neurones vont se mettre à disparaître. Et donc, c'est leur disparition qui entraîne des troubles avec des conséquences qui sont catastrophiques. Et pour l'instant, on ne sait pas soigner cette maladie. On peut à la limite retarder un peu l'apparition de symptômes, mais on ne sait pas la traiter. Il y a une autre maladie aussi très, très importante de même nature, qui est la maladie de Parkinson, hein, qui est aussi liée à une dégénérescence d'une population de neurones, pour laquelle, de la même façon, on ne sait pas quelle est l'origine de cette maladie, on ne sait pas qu'est-ce qui fait que ces neurones vont dégénérer. Et ça, c'est pareil, ça va induire, alors pour le coup, des problèmes moteurs. Et donc, la compréhension de tous ces phénomènes est un challenge extrêmement important dans le domaine des neurosciences actuellement. Et puis, il y a aussi d'autres maladies auxquelles on ne pense peut-être pas forcément. La dépression est une maladie importante qui touche énormément de personnes. On estime, je crois, actuellement qu'une personne sur cinq sera confrontée un jour ou l'autre à un phénomène dépressif. Donc, c'est quelque chose de très, très important. Donc, essayer de comprendre comment ça arrive pour essayer peut-être d'éviter que ça soit le cas et comment on peut traiter ces maladies. Donc, voilà quelques exemples de ce qui est très important en termes de soins dont on attend beaucoup de la recherche pour pouvoir les soigner ces maladies.
Alors, ce n'est pas une maladie, pour autant, ça touche aussi le cerveau. Est-ce qu'on peut mentionner aussi les troubles du spectre de l'autisme ?
Bien sûr, c'est pathologie, c'est une pathologie psychiatrique, et avec différents aspects. Hein, c'est une maladie du développement, du neurodéveloppement, pour lequel on commence justement maintenant à avoir des bases précises de ce qui se passe lors de l'apparition de cette pathologie. Je vais juste faire un petit retour en arrière. Hein, pendant très très longtemps, et jusqu'à il y a encore très peu de temps, on a cru que c'était de la responsabilité de la maman, la survenue de ces symptômes chez les enfants. Et en fait, on a culpabilisé et mis à mal des mères pendant très 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 longtemps, et on se rend compte maintenant que ce n'est pas le cas, et que les recherches nous montrent qu'il y a des phénomènes, des mécanismes neuronaux qui commencent à être identifiés, hein, en termes de récepteurs, en termes de population neuronale, qui sont à l'origine de cette pathologie. Et on a la chance à Tours d'avoir une équipe très très performante dans ce domaine, une équipe INSERM, qui travaille sur cette maladie et qui est adossée aussi à un service du CHU très performant.
Et je me permets, parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément. En fait, alors je parle sous le contrôle d'Yves, les troubles 10 sont aussi des troubles neurodéveloppementaux.
Du développement, c'est
voilà,
ça.
Voilà, donc il y a un lien de famille. Et dans les dans les récits des parents donc, qui accompagnent leur enfant avec ces troubles, on a encore de nombreux professionnels qui considèrent que le problème vient des parents et en particulier de la mère. Et vous verrez, moi j'ai beaucoup souffert de ça. Et donc je l'ai retourné de façon très humoristique et très sarcastique dans le spectacle. Vous verrez, il y a des répliques vraiment cultes. Et elles ont toutes... Alors, où elles m'ont été dites à moi, où elles ont été dites à d'autres parents. Mais tout ce que vous entendrez, qui paraît monstrueux, en fait, a été dit. Donc c'est très important, voilà, de redire que... aujourd'hui, on a des diagnostics grâce aux scientifiques et aux chercheurs et aux médecins et aux familles et aux patients qui ont fait remonter des, voilà, tous ces gens-là, les enseignants, les ergothérapeutes, les orthophonistes, enfin, tous les gens qui sont vraiment des alliés. Et ben, on sait qu'on n'est pas fou, c'est pas dans notre tête, c'est pas dans la tête de nos parents, on n'est pas paresseux. On n'est pas, ou pour les personnes autistes, on n'est pas extraterrestre, on n'est pas insensible, enfin voilà. Donc il faut vraiment, c'est pour ça que ces alliances entre artistes, scientifiques, pour nous à Pipo, on le fait aussi dans le domaine des sciences humaines, dans notre autre type de travail, où on est engagé au Sanitas par exemple, c'est très important parce qu'en fait, ça, voilà, ça permet de mettre des mots et des cadres cohérents là où se déploient des discours totalement absurdes et dangereux, aussi bien pour le patient que pour sa famille. Et du coup, cette semaine du cerveau, je pense qu'elle a ce rôle aussi là de permettre à la société d'appréhender des réalités comme le TSA ou les TND qui peuvent être invisibles. En tout cas, dans le cadre des troubles dys, mais aussi de l'autisme, c'est plus souvent invisible qu'on ne le croit. Et faire percevoir que ces choses invisibles existent. Et ça, c'est assez incroyable parce que c'est le travail de la science, mais c'est aussi le travail du théâtre, de faire voir l'invisible.
Merci, Ida Tesla. Alors, une dernière question avant de passer un extrait sonore. Yves Tillet, vous travaillez à INRAE. Pardon, sur le site Nous y. Alors, je pense que pour certains de nos auditeurs, INRAE, c'est les plantes et les animaux. Alors, si vous travaillez sur le modèle animal, est-ce que vous voulez peut-être expliquer à nos auditeurs quel rapport, entre guillemets, avec toutes les pathologies, toutes les recherches dont on a parlé précédemment ?
Alors, moi, mon travail s'inscrit dans la première partie de ce que j'ai expliqué tout à l'heure, à savoir qu'il y a la compréhension du fonctionnement du cerveau. Mon travail consiste à étudier l'impact des hormones du corps, et dans mon cas plus précisément les hormones de la reproduction au niveau cérébral. Et donc on se rend compte que dans une fonction particulière qui est la reproduction, qui est une fonction qui est partagée par beaucoup, par toutes les espèces, hein, et qui est proche, assez proche dans toutes les espèces de mammifères, eh bien les mécanismes sont très très voisins, identiques, et la compréhension de ce phénomène nous permet de comprendre comment la fonction de reproduction va être régulée. Mais au-delà de cela, ce qu'on commence à comprendre maintenant, c'est que les stéroïdes, les hormones stéroïdiennes, les hormones de la reproduction, vont avoir un impact au niveau cérébral dans bien d'autres structures cérébrales que celles qui permettent de réguler la reproduction. Et donc là, on a un véritable dialogue entre des signaux de la périphérie du corps, hein, les glandes endocrines. Alors, avec les hormones, j'ai parlé des hormones sexuelles, mais ça peut être aussi les hormones du métabolisme, l'insuline, ça peut être les hormones des glandes surrénales, les hormones du stress, qui vont avoir un impact au niveau cérébral également. Et donc, mon travail consiste à étudier l'impact de ces hormones sur le fonctionnement cérébral. Et ça, ça ouvre la voie à un grand nombre de voies de recherche qui vont concerner la gestion du stress, qui vont concerner la modulation d'un certain nombre de capacités cognitives en fonction de sécrétion hormonale. Et on sait, par exemple, dans notre espèce, que les stéroïdes vont avoir un impact au niveau de l'humeur, au niveau du stress. Et comprendre ces mécanismes permet aussi de comprendre un certain nombre de comportements. Et mon travail donc s'inscrit dans cette partie-là. Et je dirais, c'est ce socle de connaissances qui permet ensuite d'aller vers des études liées à des pathologies. Alors là, ce n'est pas du tout mon domaine. Moi, je ne travaille pas dans le domaine de la recherche sur des maladies du cerveau, simplement sur la compréhension de la façon dont le cerveau fonctionne. Mais c'est ce socle de connaissances qui va permettre d'aller au-delà. Je pourrais juste en donner un petit exemple pour être plus concret. Alors là, on ne va pas parler de pathologie du système nerveux, mais il y a un certain nombre de stérilités, notamment chez la femme, qui sont liées à un mauvais fonctionnement du système nerveux, que l'on peut corriger parce qu'on a compris comment cette interaction se faisait entre système nerveux et reproduction, et que l'on peut corriger en appliquant des hormones de synthèse pour reproduire un cycle chez la femme. Et ça, ce mécanisme a été compris en étudiant l'animal, et on a pu l'appliquer sur un dysfonctionnement, on va dire, de la reproduction dans l'espèce humaine.
Merci Yves Tillet. Alors, chers auditeurs et chères auditrices, on va faire une première pause musicale dans cette méridienne consacrée à la semaine du cerveau qui se tient à Tours du 13 au 19 mars. Je me tourne vers Ida Tesla. Alors Ida Tesla, premier choix, Bruce Springsteen. Pourquoi est-ce qu'on écoute ça ?
Il fallait que les auditeurs auditrices se rendent compte de mon âge avancé, même s'ils ne me voient pas. Donc là, ça y est, c'est clair. Hein. Voilà. Je suis née avant Internet, c'est terrible, mais c'est comme ça. En fait, c'est une chanson, une de ses premières chansons, donc j'étais pas née quand il l'a chantée. Mais il dit, vous allez écouter, vous connaissez bien l'anglais, mais il dit, quand on m'a demandé de m'asseoir, je me suis levée, etc. C'est plein d'exemples comme ça. Et c'est ça qu'il appelle grandir. Et on en reparlera après concernant notre personnage avec trouble 10 qui donc, s'appelle Théor. Voilà, c'est une vision de... Enfin, désobéir, c'est grandir, c'est quelque chose qui me convient assez bien.
Et alors, avant d'écouter Bruce Springsteen, rappelons peut-être que cette pièce 10 sur 10 est à voir quand et où dans cette semaine du cerveau ?
Donc, le 16 mars, c'est un jeudi. On a pensé aux étudiants et étudiantes, on sait qu'ils sortent le jeudi. C'est à 20h, ils peuvent même faire un after après. Et c'est salle Télém, donc c'est quand même au Tanner, au bord de Loire, facile à trouver et facile d'accès. Suspended in my masquerade, and I combed my hair till it was just right, and commanded the night brigade. I was open to pain and crushed by the rain, and I walked on a crooked crutch. I strode all along to a ball I zoned, came out with my soul untouched. I hid in the cloud and wrath of the crowd when they said sit down. I stood up. From my mask, my sails were set wing to wing. I had a jukebox graduate for first mate. She couldn't sail, but she sure could sing. And I pushed B-52 and bombed them with the blues. With my gear set stubborn on standing, I broke all the rules, straight my old high school. Month-long vacations in the stratosphere, and you know it's really hard to hold your breath. Swear I lost everything I ever loved or feared. I was a cosmic kid in full costume dress, but my feet they finally took root in the air. But I got me a nice little place in the stars, and I swear I found the key to the universe.
Comme on vient de l'espace, on a un super pouvoir.
On est invisible. Ben si, carrément.
On vous jure, on est invisible.
Sauf pour Théor, bien sûr, et encore, ça dépend.
Ouais, ça dépend.
Vous rigolez, mais vous n'imaginez même pas le mal que les spatialistes ont à nous trouver.
Un truc de gnouf.
J'ai observé attentivement votre enfant dans la cour de l'école. Il a vraiment un comportement...
étrange. Je ne pense pas qu'il ait des difficultés particulières, si ce n'est...
un gros poil dans la main. Votre enfant dans sa tête, de toute façon, c'est tout...
embrouillé. Votre enfant n'est pas bien.
L'école n'y est pour rien.
C'est votre séparation qui le traumatise.
Je ne pense pas qu'il ait des troubles spécifiques. Par contre, je vous trouve très...
fusionnel. C'est bien beau d'être dans une famille d'artistes, mais il faut redescendre sur Terre de temps en temps.
S'il y a le feu, emmenez-le, parce que lui, il restera
immobile et se fera piétiner
par la foule.
Alors voilà, c'était un extrait de ce spectacle 10 sur 10. Alors, ces voix ricanantes, Ida Tesla, comme tu l'expliquais tout à l'heure, c'est des choses vues et entendues.
Voilà, c'est ça, c'est que du vrai. Alors évidemment, jouer d'une manière très humoristique, nous on appelle ça la scène des sorcières, comme dans Macbeth. Mais toutes ces phrases, y a des parents et des enfants avec 10 qui les ont entendues par des gens très bien intentionnés, qui étaient là pour les aider et qui croyaient très sincèrement les aider en disant ça. Donc c'est là où pour nous, c'est fondamental la recherche, le diagnostic. Donc les diagnostics sont faits au Centre des troubles du langage et des apprentissages de Clocheville, avec des équipes pluridisciplinaires que vous allez rencontrer grâce à Yves qui les a invités donc le jeudi 16 mars à l'issue de la représentation. Et c'est grâce à tous ces gens qu'aujourd'hui, nous, patients, familles de patients et artistes qui voulons, qui essayons de raconter comment on voit le monde à travers quand on vit avec ces troubles 10, c'est grâce à eux qu'aujourd'hui il y a un diagnostic et qu'on peut donner du sens à ce qu'on vit en fait.
Alors, j'allais poser une question à Yves Tillet. Je me demandais, en tant que chercheur, activiste, si on peut dire, en tout cas, sur cette semaine du cerveau, comment vous réagissez quand vous entendez des témoignages comme cela, en fait, de ressentis de parents, d'enfants atteints de troubles 10 ou autres, et qui témoignent peut-être d'une incompréhension de la part de certains soignants ?
Ça ne peut que me conforter dans l'intérêt de faire ce genre de campagne. Parce qu'en fait, il y a plusieurs points, à mon avis, importants et pour lesquels nous, chercheurs, on a peut-être déjà aussi une petite responsabilité qui est la diffusion de nos connaissances. C'est-à-dire qu'entre professionnels, on va publier dans des journaux scientifiques qui vont rester dans un cercle relativement fermé. Mais ça, ce n'est pas suffisant et ça doit diffuser auprès du public. Et je pense qu'on a une responsabilité dans la communication vers du public de ce que nous faisons. C'est pour ça que je me suis engagé dans cette voie. Et il y a plein d'exemples comme ça qui montrent que c'est absolument nécessaire. Et l'autre chose, c'est que c'est aussi une façon que le public a de rencontrer les véritables acteurs de la recherche. C'est-à-dire que on n'a pas toujours la possibilité de rencontrer un chercheur, d'aller dans un labo, etc. Et là, c'est l'occasion. Et c'est une occasion qui est justement... donné pendant toute cette semaine. L'autre chose, peut-être, et c'est un peu lié à cela, c'est que je pense qu'il y a un déficit au niveau de l'enseignement des sciences biologiques qui sont quand même, à mon sens, extrêmement importants parce qu'elles parlent de choses qui nous concernent tous dans notre environnement, dans notre vie, dans notre quotidien. Et ça, c'est quelque chose qui manque et qui pourrait être aussi l'occasion, justement, de rappeler un certain nombre de ces informations, expliquer un petit peu comment nous fonctionnons en tant qu'organisme et qui peut-être faciliterait, je dirais, la transmission de ces informations, les échanges entre les différents acteurs, les patients, les soignants, etc. Je pense que là, c'est un point important qu'on essaye de combler à travers cette semaine. Et puis l'autre point qui est peut-être un peu différent sur un autre plan, mais j'y suis assez sensible du fait de mon statut, je suis payé par les finances publiques, hein. Je suis un employé de l'INRAE, donc un organisme de l'État, et donc il me semble tout à fait naturel que je revienne vers le public qui finance mes recherches, mon salaire, et leur dire un petit peu ce que nous faisons.
Alors, est-ce que cet effet post-Covid, vous le ressentez sur des manifestations comme celle-là, c'est-à-dire un engouement pour les sciences, en tout cas un intérêt du grand public pour rencontrer des chercheurs et des chercheuses, pour comprendre justement ce qu'il se joue ?
Oui, alors je dirais que c'est un engouement qui a commencé avant le Covid. Hein. Les premières manifestations qu'on a pu faire dans le cadre de la semaine du cerveau, il y avait beaucoup d'inconnus pour tous. Hein. Et finalement, on s'est rendu compte qu'il y a un tas de gens qui sont curieux de savoir ce qu'on fait dans les labos, à quoi ça sert, etc. Et puis l'autre aspect, peut-être lié au thème, c'est que le cerveau, c'est un organe qui est un peu étrange. C'est là où siègent nos pensées, c'est là où on a notre personnalité. Et donc, c'est souvent compris, attention, on va étudier le cerveau, donc on va peut-être essayer de comprendre ce que pensent les gens, comment les gens vont penser, etc. Et donc ça, c'est tout ce mystère qui est autour de ça, questionne et intéresse. Donc, je pense que les gens sont assez friands de science maintenant, en général. Et puis, concernant le cerveau, je pense qu'il y a quand même pas mal d'atouts pour attirer les gens aussi à ce niveau-là.
Alors justement, hein, puisque je sens que nos auditeurs ont très envie d'aller aux conférences tout public qui seront proposées dans le cadre de cette semaine du cerveau du 13 au 19 mars 2023 pour l'édition à Tours. Est-ce que vous voulez nous en dire plus justement sur ces conférences ? Alors il y en a une mardi 7 mars, 19h, 21h en ligne sur Internet. Voilà, mieux comprendre la maladie de Charcot. Alors c'est quoi ?
Alors ça, c'est une conférence assez particulière puisqu'elle est donnée en collaboration avec la fondation Thérèse et René Plagnol, qui est une fondation tourangelle qui finance des recherches sur les maladies du cerveau et qui attribue tous les ans un prix à un jeune chercheur, on va dire, talentueux. Et l'occasion de ce prix est aussi pour le public de venir écouter le sujet de ses recherches. Et donc là, on écoutera une jeune chercheuse de Strasbourg qui viendra nous parler de la maladie de Charcot, qui est plus connue peut-être sous le nom de sclérose latérale amyotrophique, donc une maladie là aussi neurodégénérative qui est assez catastrophique puisqu'elle va atteindre la jonction entre le système nerveux et les muscles et donc entraîner des paralysies successives qui vont souvent jusqu'à la mort. Et donc il y a beaucoup d'espoirs qui sont aussi fondés sur la recherche pour comprendre et soigner cette maladie. Et donc cette conférence fera le point sur un aspect de recherche de cette maladie, donc avec l'espoir, le but de bien la comprendre et puis au-delà d'essayer d'apporter une petite contribution aux soins qui pourraient être appliqués, aux traitements qui pourraient être mis en place pour cette maladie. Alors évidemment, ça ne va pas être résolu comme ça au cours de la conférence, bien évidemment, mais c'est une contribution de ces recherches à cette pathologie.
Et alors, il y a aussi deux conférences donc là, sur un autre thème, peut-être qui va faire réagir nos auditeurs, cerveau et hypnose. Alors, on ne parle pas d'hypnose au spectacle, là.
Voilà, alors justement, ça fait partie des aspects qui vont... qui intriguent peut-être un peu les auditeurs. Et en fait, l'idée qu'il y avait derrière ces deux conférences, c'est justement de ramener un petit peu les choses à leur réalité et de parler de l'hypnose. Alors... mais d'en parler de façon scientifique et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau lorsqu'on est sous hypnose, lorsque le cerveau est en hypnose. Partant du constat que ça a été longtemps un spectacle de foire avec beaucoup de supercherie, je pense, beaucoup d'amusement du public. Alors, ça amuse, c'est très bien, on en rit, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? Est-ce que finalement, quelqu'un sous hypnose va pouvoir obéir au doigt et à l'œil de l'hypnotiseur ? Voilà des questions intéressantes. Et donc là, l'idée, c'est d'apporter une réponse à... qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on est sous hypnose ? On n'est pas endormi, on n'est pas éveillé, on parle d'un état de conscience particulier. Et puis l'autre aspect, c'est que maintenant, on utilise cette méthode en clinique pour dans différentes situations. Et ça permet justement de montrer que l'hypnose, par-delà tout ce qu'on peut en imaginer et ce qu'on peut en connaître, est aussi un outil qui est utilisé dans différentes situations. Alors moi, la première approche que j'avais vue avec cette, l'utilisation de l'hypnose en, en médecine, c'était pour l'anesthésie. Donc d'essayer de faire en sorte que lorsqu'il y a une chirurgie nécessite une anesthésie, eh bien on puisse essayer de la diminuer et de la remplacer par une séance d'hypnose. Et ça, notamment, c'est le cas de tout ce qui concerne les chirurgies du cerveau et les chirurgies éveillées, où le chirurgien a besoin de la coopération du patient pour pouvoir intervenir sur une zone très précise. Et donc l'hypnose à ce niveau-là a été pratiquée, notamment au CHU de Tours, comme un outil donc, de la clinique. Alors c'est aussi utilisé, alors là je ne connais pas du tout ce domaine-là, mais c'est aussi utilisé dans d'autres situations pour des aspects de phobie, des aspects des choses comme ça. Et donc la seconde conférence, la première va s'intéresser plus à la façon dont ce qu'on a pu observer dans le cerveau sous hypnose en recherche en neurosciences. Et la seconde conférence parlera justement de l'utilisation de l'hypnose en clinique. Et la personne qui viendra en parler, c'est un docteur donc de Clocheville, qui est Madame Véronique Lesage, et qui viendra justement expliquer ce que l'on peut faire en clinique avec cet outil. Donc ça, c'est vraiment les deux aspects de quelque chose qui questionne souvent, je pense, les gens.
Alors, conférence, rappelons-le, gratuite, hein, tout public, donc on peut venir même si on n'est pas étudiant en médecine.
Absolument, non, l'idée c'est vraiment de la vulgarisation, donc généralement c'est assez réussi de ce point de vue-là, les chercheurs se mettent à la portée du public qui est là, et puis en tant qu'organisateur, on essaye aussi de faire intervenir des personnes dont on sait qu'elles ont cette capacité, et là les deux intervenantes, donc il y aura... Une personne qui va venir de Liège, d'un labo spécialiste dans les recherches sur le cerveau en état d'hypnose, qui est donc le docteur Aminata Bissego, qui est tout à fait aussi qui a l'habitude de ce genre d'exercice vis-à-vis du public, et donc l'autre, le docteur Véronique Lesage, donc une clinicienne donc de Tours, qui a aussi pas mal d'habitude de ce genre d'exercice. Donc c'est très important, on n'est pas forcé d'être spécialiste pour comprendre ce qu'on va écouter, et c'est gratuit et ouvert à tous.
Et une autre conférence aussi qu'on peut mentionner, même là, pour le coup, elle n'est pas accessible à tous et à toutes, c'est la conférence en milieu protégé. Donc le 21 mars, il y aura une conférence à la maison d'arrêt de Tours.
Oui, c'est aussi un souhait de pouvoir atteindre ce qu'on appelle les publics empêchés, hein, qui sont les publics qui sont notamment dans les maisons d'arrêt. Il n'y aura pas que ça, il y a les publics empêchés au niveau des EHPAD, au niveau de l'hôpital, etc. Là, c'est un pas qu'on a fait depuis de nombreuses années déjà avec l'administration pénitentiaire. Et on est impliqué dans cette démarche par la Fédération des œuvres laïques qui nous aide à pénétrer ce milieu. Et là, on va avoir une conférence sur la façon dont on va percevoir notre environnement. C'est-à-dire qu'on peut assister à une scène, à un spectacle, à un événement. Tous les spectateurs, tous les observateurs de cette scène ne vont pas forcément la voir de la même façon. Et... pour un tas de raisons, hein. D'abord parce que on peut avoir des biais de perception, on peut avoir une culture qui nous amène à être sensible à tel aspect et pas à tel autre. Enfin bref, tout ça pour expliquer que notre perception d'un événement peut être très très liée à nous-mêmes. Et donc la conférence va essayer d'expliquer ça justement et d'expliquer comment d'une situation qui peut être relativement simple, d'un événement qui peut être relativement facile à comprendre, eh bien on va en percevoir chacun des choses différentes. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent un peu méconnu. On a l'impression d'être assez sûr de soi dans une observation, et puis finalement, non, c'était pas tout à fait ça. Et ça ramène aussi à la façon dont on va en stocker les souvenirs, etc. etc.
Alors, le choix de cette conférence-là, à cet endroit-là ?
Le choix, il peut être assez évident, c'est-à-dire que les personnes qui sont là se retrouvent confrontées à la justice, c'est-à-dire qu'elles doivent répondre à un moment donné d'un comportement, d'une action, et la façon dont les faits sont rapportés, eh bien évidemment, ils vont dépendre de la façon dont on va les percevoir. Et l'état de gravité d'un événement, il peut être perçu différemment en fonction de son vécu, en fonction de sa culture. Et je pense que là, ça permet un peu de relativiser, les souvenirs qu'on peut avoir ou la lecture qu'on peut avoir d'un événement.
Voilà, eh bien, on va laisser nos auditeurs méditer sur ces sages paroles en faisant une autre pause musicale. Je me tourne à nouveau vers Ida Tesla. donc, qui est dramaturge et metteuse en scène de la compagnie Pipo, s'est casée. Alors pourquoi on va écouter ça ?
Alors, donc Pipo Hip Hop, on ne l'a pas encore dit, mais dans 10 sur 10, que vous viendrez voir le jeudi 16 à Télème, il y a un rappeur et qui a écrit 3 chansons de rap. Donc, c'est un spectacle musical, donc voilà, il fallait une référence rap. Alors lui, je vous rassure, il est né après Internet, donc il fait du rap d'aujourd'hui. Mais là, je voulais quand même choisir du rap old school, parce que Kazé, c'est quelqu'un que voilà, j'admire énormément et qui, plus que d'autres, je pense, sait ce que c'est être différent et parfois être relégué socialement, ce que vivent parfois les gens avec troubles du neurodéveloppement. Et là, elle nous parle de ses rêves illimités. Et Théor, c'est pareil. Et voilà, si vous voyez le spectacle, vous saurez que vous avez droit aux rêves illimités comme les autres. Et c'est pour ça que vous pourrez être 10 sur 10, même avec trouble 10.
Être de chair et de sang, à l'air innocent, produit d'une mère exemplaire et d'un père absent. Les premiers vers dans le rap, un jeu adolescent, parce que je n'ai rien à faire d'hyper intéressant. Je rêvasse, je dessine, passe à la piscine, l'été, le reste du temps sur place, je prends racine. Du fond de la classe, la terre et l'espace me fascinent. Je ne ferai jamais médecine, c'est ce que je ressens. Locataire d'une cité où les tours sont austères, mon histoire c'est d'y être noir, donc minoritaire. Hébété par les débilités que la télé déblatère, et cette grande timidité qui m'a rendu solitaire. Arrêtez la routine, remettez la bobine et évitez de laisser le bitume irriter les rétines. Cessez de bousculer l'exclu à la gueule masculine. Mes origines et mon air androgyne, je ne sais pas faire sans. Et le temps ne va pas mater ma personnalité. Il va tenter le tout pour le tout, mais je vais lutter. Même si longtemps j'ai été hanté et tourmenté, j'ai fait sauter les clignotants et les barrières de sécurité. Ma réalité, mentalité, c'est de gratter mon paradis à temps sans le regretter. Pour faire le tour de la terre, je n'ai pas l'éternité. Malgré tout, je reste l'enfant au rêve illimité. Et je suis dissipé, mal dans ma peau. Je fais des 100 pas, mais ne sais pas où trouver mon drapeau. Comme très tôt trempé par la bave du crapaud, je me sens dupé, trompé par le reste du troupeau. J'ai fripé la copie, où est frappé l'épopée des impies accro à l'utopie qu'on a estropié. Et j'ai pillé avec dépit ce pays développé où sans répit on doit palper pour payer ses impôts. Et la peur du faux départ demeure mon repère dans les remparts et sous les regards des langues de vipères. Le manque de victoire forge mon caractère, mon territoire ne va nulle part, normal je me perds. Marre du crépit, je voudrais m'échapper, grimper sur le tapis volant qui saura m'attraper. Flipper de participer à ce grand souper, je veux juste m'occuper de taper mon propre tempo. Et le temps ne va pas mater ma personnalité, il va tenter le tout pour le tout, mais je vais lutter. Même si longtemps j'ai été hanté, tourmenté, j'ai fait sauter les clignotants et les barrières de sécurité. Ma réalité, mentalité, c'est de gratter mon paradis à temps sans le regretter. Pour faire le tour de la terre, je n'ai pas l'éternité. Malgré tout, je reste l'enfant au rêve illimité. Et encore aujourd'hui, bien que j'ai grandi, j'ai su garder un esprit de gosse attardé. Je ne pense qu'à les arder du lundi au samedi, et les vieilles pies que ça doit emmerder peuvent me regarder. Je me tape des ondis, des comptes rendus idiots que ces maudits aiment faire dans mon dos pour me saborder. J'ai horreur du temps perdu à porter un fardeau avant d'attendre ce fameux repos qu'on va m'accorder. Et je n'aime que ma plume, idem pour mes rimes, quand sur mon barème c'est le mot haine qui s'imprime. C'est mon sérum qui supprime la rue ses problèmes, quand son programme ne me vend que drame et déprime. Vivre l'âme vidée, le crâne téléguidé par la thune avant de quitter l'antenne en panne héritée. N'est pas dans ma nature, laissez-moi décider de ma trajectoire et simplement faire à mon idée.
Théor, tu comprends pas les théorèmes, alors tu comprendras jamais théorie.
Théor fait qu'espérer, Théor rêve qu'il filera le ciel comme une théorie. Ton regard, son regard, vos regards, ça me terrorise. Tu comprends pas ma mélodie, c'est pas du retard si je suis émotif, deviens ironique. 1, 4, 6, 8. depuis 13 ans de guerre. J'agis qu'on voit en cessant de faire. Tu ressens tension qui est dans l'air. La fin dans mes dents, c'est dans de faire. Mais n'empêche, l'envie d'embraver des tempêtes. L'envie d'embraser, c'est quand même devenir une étoile dans l'espace qui t'a peut-être brûlé mes grandes ailes.
On peut l'aider, on peut pas lui donner des ordres. Pour lui ou sur lui qu'on fait les sommes.
Les hommes, ils font des ordres.
Crois-moi, t'es on est des hommes.
Lancé à fond sur une route barrée. Néron dans un monde carré. Y'a pas de fait les bons calculs. Fais l'école maths sup, sois bon et ça le fait pour nous. Comprends que des fois ça saigne. Pas content car des fois ça sert à rien. Message que les forces ça paye, que les portes ça se pète. Mais t'es hors, ça le fait. Tous les potes caquissent. Papa, maman, je les rends fiers, moi. C'est bon, c'est pas la mince affaire.
Lancé à fond sur une route barrée. Néron dans un monde carré. Y'a pas de fait les bons calculs. Fais l'école maths sup, sois bon et ça le fait pour nous. J'comprends que des fois ça saigne. Pas content car des fois ça sert à rien. Mais sache que les portes ça paye, que les portes ça se pète. Mais dehors ça le fait, tous les bons calculs. Yes.
Yeah. Ouais. Papa, maman, je les rends graffés en moi.
Voilà, donc c'était Kazé suivi d'un nouvel extrait de 10 sur 10. Alors, qu'est-ce qu'on a écouté, Ida ?
Alors, vous qui êtes étudiant, étudiante, peut-être vous avez frissonné à cette sonnerie qui était celle de votre collège. Donc, je ne m'en excuse pas puisque c'est exactement fait exprès. On a vu des jeunes se redresser, on parlait des comportements avec Yves, se redresser rien qu'à l'écoute de cette musique. Et donc là, c'est une scène où Théor, avec donc ses deux amis imaginaires, Nassim et Elisa, s'ambiance parce que lui, il a beaucoup de mal à écrire, il a beaucoup de mal à faire du vélo. Au square, il regarde les autres enfants comme devant un film en accéléré. Enfin, il y a plein de situations où il est censé s'amuser. Et lui, il ne s'amuse pas du tout, en fait. C'est même plutôt la galère. Et donc là, c'est le moment où il va faire ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire la tchatch. Et donc, il rappe, il veut devenir rappeur. Et donc, il rappe avec ses amis. Et cette chanson a été écrite par Victor Poguet, donc qui joue le rôle de Théor dans le spectacle. Il est comédien, mais c'est également un rappeur que vous connaissez sûrement sous le nom de Garuzé, G-A-R-U-Z-E. Voilà, vous pouvez le retrouver sur tous les réseaux et puis en concert dans la région prochainement. Donc là, il a fait du rap, le rap de Théor, qui n'est pas le rap de Garuzé.
Voilà, donc peut-être raconter à nouveau, parce qu'il y a déjà une émission où on parle de 10 sur 10, chers auditeurs, on la mettra en lien dans le podcast de celle-ci, mais peut-être rappeler pour ceux qui arriveraient en cours d'émission, comment on écrit un spectacle sur un thème comme ça, comment on choisit des artistes, comment on le met en forme.
Alors, moi, si c'est un texte qui a surgi, il a surgi de moi. Alors, j'ai vite compris d'où il venait. Hein. Ça, c'était pas difficile parce que je pense que mon fils à l'époque avait 10 ans. Donc, je venais, comme on m'a conseillé de m'inquiéter à son sujet dès la maternelle. Voilà, ça faisait déjà 7 ans que je vivais ce que les parents, entre parents, on appelle parcours du combattant, qui est souvent un parcours à majorité de la combattante. Pour aider notre enfant, parce que moi je voulais bien agir, par contre m'inquiéter, ça j'avoue qu'en tant que parent ça m'intéresse pas du tout. Agir, comprendre, entendre ce que vous avez entendu tout à l'heure, c'est-à-dire parfois des remarques très très difficiles à saisir, qui ne se veulent pas mais qui sont culpabilisantes. Donc voilà, j'ai traversé tout ça et ce texte est venu, j'ai écrit ce texte et après je l'ai fait lire à l'association Pipo avec laquelle je collabore et donc ils m'ont dit on veut faire ça, on veut monter le spectacle. Donc moi j'avais pas du tout envie de mettre en scène mon texte et donc je leur suis très reconnaissante, notamment à Cécile Gorand, ma productrice, parce que voilà, c'est vraiment elle qui m'a emmenée vers ça, où j'avoue que ça me faisait un peu peur, je crois, de monter mon propre texte qui, en plus, parlait voilà, de choses très proches. Et puis, ce qui m'a beaucoup portée aussi, c'est Emma Biver et Thomas Biver, les deux comédiens qu'on n'a pas encore cités, qui jouent Nassim et Elisa, parce qu'on a eu, grâce à la DRAC, région Centre-Val-de-Loire, deux résidences en juillet 2020 et juillet 2021, où on avait du temps pour travailler avec les habitants du Sanitas et on avait aussi du temps pour nous travailler sur les textes. Et donc, j'ai pu travailler avec eux sur ce texte. J'ai pu réécrire des choses qui sonnaient mal, mais j'ai pu aussi restructurer parce qu'eux ne connaissaient pas du tout le sujet. Donc, ils ont été super importants aussi pour retravailler le texte. Et puis après, on s'est mis à travailler tous ensemble. Et puis, on a rencontré Victor Poguet. Et Victor m'a dit, voilà, ton rap... Parce que moi, j'avais déjà écrit du rap pour le spectacle. Je voulais absolument du rap. Il m'a dit, bon, ton rap, il est bien, mais il est old school hein, quand même. Donc, moi, je vais te proposer de te réécrire des textes dans le même esprit avec des mots similaires. Et tu vas me dire si ça te convient. Et voilà, il est rentré dans la plume de Théor. Et il a écrit trois chansons incroyables qui correspondent évidemment pas du tout à mon rap à moi, mais complètement au rap. Et puis, on a pu s'en rendre compte des ados et des jeunes adultes d'aujourd'hui. Donc, il y a une résonance incroyable qui se passe dans le spectacle. Et puis, j'ai aussi des personnes plus âgées qui m'ont dit « Ah, moi, d'habitude, j'aime pas le rap, mais là j'ai adoré. » Donc, voilà.
Et alors, une question subsidiaire. Comment on présente un tel spectacle à des programmateurs? Parce qu'un spectacle sur les troupes 10, ça peut être surprenant.
Alors, mais nous, on a eu beaucoup de chance parce qu'on travaille avec des programmatrices qui sont très fidèles. Donc, Pascal Davy a joué les tours, Claire Barbieux à Luynes, et qui sont aussi des personnes extrêmement sensibles aux questions des différences, des enfants qui sont relégués, qu'on met de côté. Voilà, on sait sans se le dire qu'on partage un peu, que si on fait du théâtre pour la jeunesse, c'est aussi, que ce soit dans la création ou les actions culturelles, c'est pour ces enfants-là avant tout. Hein. Moi, j'ai toujours travaillé, quand je rentre dans une classe, je viens travailler pour cet enfant ou ces enfants-là d'abord. Et ça ne veut pas dire que je sacrifie les autres, mais voilà, j'ai pris conscience de ça avec les années, je viens pour eux. Et voilà, je pense qu'il y a pas mal de programmateurs, programmatrices qui ont compris que d'abord, c'était un vrai spectacle de théâtre et de musique comme les autres, et que c'est pas un sujet de niche, un sujet spécialiste, etc. C'est un vrai sujet aujourd'hui et qui, en plus, voilà, a été mis là récemment sur le tapis par Pierre Lemaitre, l'auteur, entre autres, de Au revoir là-haut, un de nos prix Goncourt, qui a alerté dans les médias sur la dyspraxie visio-spatiale et ce que vivaient les enfants à l'école. Voilà, on a la loi d'inclusion scolaire aujourd'hui, elle date de 2005, hein, des gens qui ont fait un travail extraordinaire pour justement que des enfants qui avant n'étaient pas accueillis le soient. Donc il y a tout un mouvement vraiment de la société globale que va bien raconter la semaine du cerveau, qui est vraiment fait pour la reconnaissance de ces troubles et non pas pour l'inclusion, hein, puisque moi c'est un mot que je renie totalement. On n'a pas à inclure des personnes en situation de handicap dans la société, elles en font partie de droit, donc pour cesser les processus d'exclusion.
Et si je puis juste compléter, c'est aussi, il y a des spectacles comme ça qui sont de formidables outils pour nos chercheurs, pour aller vers le public avec d'autres moyens de les toucher et qui vont illustrer parfaitement des propos scientifiques après.
Et d'ailleurs, Yves Tillet, j'en profite puisque vous prenez la parole, on peut dire aussi que le jeune public n'est pas oublié dans cette programmation de la semaine du cerveau. Donc il y a le spectacle 10 sur 10 qui n'est pas que pour les enfants, hein, c'est bien tout public, mais il y a aussi un atelier là pour le coup qui est vraiment pour les enfants de 7 à 12 ans. Donc c'est à la bibliothèque de la Rotonde, c'est quoi ?
C'est cela, en fait on organise des ateliers pour les petits, donc les élèves du primaire, à partir du moment où ils savent lire, pour leur montrer par des petits jeux un peu comment fonctionne le cerveau, à quoi ça sert. Alors c'est des jeux très simples, hein. Ça peut être des puzzles pour l'activité motrice et spatiale, ça peut être leur montrer des neurones, les cellules nerveuses au microscope, ça c'est quelque chose qui est fabuleux, faire des tests de mémoire, des jeux de mémoire, hein, et tester la façon dont le cerveau peut mémoriser des choses. Donc tout ça, ce sont des ateliers qu'on a mis en place à destination du très jeune public. Et on fait ça en partenariat avec la bibliothèque de Tours, qui nous accueille sur l'un de ses sites. Alors cette année, c'est la bibliothèque de la Rotonde. On a, je crois, visité à peu près les différents sites de la ville de Tours. Et ça, c'est quelque chose qui permet aussi de sensibiliser assez tôt les enfants à un domaine de la biologie, hein, notre cerveau, une démarche aussi. Alors, peut-être commencer déjà à parler de démarche scientifique, hein, d'éveiller au moins la curiosité, et puis curiosité qui pourra peut-être évoluer vers quelque chose de plus important.
Est-ce que vous, vous sentez là aussi, chez ce public-là, la fascination, même la joie en fait, de rencontrer des cervologues, entre guillemets ?
Alors, je ne sais pas si c'est le fait de rencontrer des cervologues, mais c'est le fait de découvrir des choses nouvelles. Oui, ça, il y a une fraîcheur à cet âge-là qui est extraordinaire et qui fait que c'est un public facile quelque part, parce qu'ils sont très réceptifs et très attentifs à ce qu'on leur expose. Et tout à l'heure, je parlais d'interaction entre hormones et cerveau. C'est une fraîcheur qui va disparaître momentanément avec l'arrivée des hormones et de l'adolescence, et qui revient après. Et donc là, on a vraiment un public qui est vraiment extraordinaire pour cela.
Donc ça revient après, un avis aux parents d'adolescents qui d'aventure nous écouteraient. Ne désespérez pas. Voilà. Et il me semble qu'il y a une autre rencontre que nous n'avons pas encore mentionnée avec à la boîte à livres, avec Laurence Tacona, donc qui est chercheuse au CERCA.
Oui, c'est une rencontre à la boîte à livres. Alors, avec la boîte à livres, on a aussi un partenariat de longue date qui nous permet d'accueillir un auteur qui a publié un ouvrage sur le cerveau. Alors, le cerveau, je sens très, très large. Ça peut être un ouvrage plutôt technique, ça peut être un roman, ça peut être une réflexion, un essai. On a vraiment balayé beaucoup de genres dans ce domaine. Et là, mardi prochain, donc dans 8 jours, ce sera avec Laurence Tacona, qui est professeur de psychologie à la faculté de lettres de Tours, à l'université de Tours. Donc dans un laboratoire qui est le CERCA, donc c'est le centre de recherche sur la cognition et les apprentissages. Et donc elle va nous parler du travail qu'elle a rapporté dans ce livre, qui traite de la mémoire et sur la façon de l'entretenir. Et donc ce sera l'occasion justement là de parler de la mémoire qui sert à apprendre, évidemment, on revient dans les apprentissages, avec ses différentes facettes et puis les différentes astuces, parce qu'on est tous... bien sûr, curieux de savoir comment on peut améliorer sa mémoire. On veut tout reconnaître, tout apprendre. Donc, c'est comment on peut la booster. Alors, on parlera de tout ça avec Laurence Tacona au cours de cet entretien.
On le rappelle, semaine du cerveau à Tours, du 13 au 19 mars 2023. Multiples événements, conférences, ateliers, jeunes publics. Et puis, évidemment, cette représentation de la pièce 10 sur 10 par Pipo. Ida, le mot de la fin, parce que je vois que l'horloge annonce précisément 11h51, alors on te laisse le mot de la fin.
Oui, alors pour vous dire qu'on va partir en tournée régionale, donc vous pouvez également nous retrouver mercredi, nous serons à Noître. Et puis nous irons le 22 mars, nous jouons à Avoine, nous irons aussi à Bléré le 1er avril, nous serons à Pithiviers les 26 et 27 mars. Donc vous nous retrouverez à l'espace Malraux en novembre. Donc n'hésitez pas à aller voir sur les réseaux Pipo et notre site internet, bien sûr. Et aussi pour vous dire qu'on a engagé pour faire tout ça, tout ce travail, et puis aller à la rencontre vraiment des gens concernés. On a lancé une campagne de financement participatif sur une plateforme engagée en région centre sur l'économie sociale et solidaire qui s'appelle Effervescence. Donc si vous pouvez nous donner un petit coup de main ou diffuser l'info, on sera très très heureux. Donc n'hésitez pas à aller nous retrouver sur internet, sur le site de Radio Campus, bien sûr. Et puis on voulait remercier aussi Yves et puis l'Université de Tours de nous accueillir à Télème, parce que bon, c'est une magnifique salle de spectacle. Voilà, donc on sera très heureux de vous y retrouver jeudi 16 mars à 20h.
Merci Ida Tesla, donc dramaturge, metteuse en scène de la compagnie Pipo. Merci aussi à Yves Tillet, donc directeur de recherche à INRAE. Alors peut-être on peut dire à nos auditeurs où est-ce qu'on retrouve le programme de cette Semaine du cerveau.
Alors il y a un site internet qui doit être www.semainedducerveau.fr qui va vous donner le programme de toutes les manifestations en France. Et là, vous pouvez voir le détail des conférences, des manifestations, vous inscrire. C'est important pour la conférence de demain, puisqu'elle sera en ligne. Il faut que je vous envoie un lien Internet. Donc, j'ai besoin d'avoir vos coordonnées. Et vous pouvez aussi voir ce qui va se passer à Orléans, à Angers, à Poitiers, etc. Et dans toute la France au cours de cette semaine.
Merci encore à vous deux d'être venus dans cette méridienne. Donc je rappelle à nos auditeurs que cette émission est rediffusée aujourd'hui même à 17h sur le 99.5 FM, écoutable à volonté également en podcast sur notre site radiocampustour.com. Et j'en profite également pour saluer les personnels du CROUS. Voilà, bonjour, je sais que vous nous écoutez là-haut depuis l'IUT, voilà, On sait de source sûre, coucou Paul Émile, que Radio Campus Tours est diffusée dans la cafétéria du rue de l'IUT. Donc on s'en réjouit évidemment. Merci à l'équipe du Crous. Et voilà, on salue bien évidemment les étudiants auxquels on souhaite le meilleur appétit. Voilà, on va se quitter en écoutant un peu de musique. Et cette fois-ci, on va écouter Pigalle dans la salle du Bar Tabac de la rue des Martyrs, puisque le chanteur emblématique de ce groupe nous a quittés très récemment. Donc voilà, écoutons ça et je vous souhaite à tous et toutes une très bonne journée.
Merci pour votre accueil.
Dans la salle du Bar Tabac de la rue des Martyrs, il y a les filles de nuit qui attendent le jour en vendant du plaisir. Il y a les ivrognes qui s'épanchent au bar, qui glissent lentement le long du comptoir par terre. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs, le patron a un flingue pour l'ingénu qu'en voudrait à la tirelire. Dans les chiottes, les mots gravés sur les murs parlent de sexe géant, d'amour et d'ordure, ensemble. Ici, chacun doucement oublie l'ombre d'une vie passée d'une femme de décombre. Dans ce cliché funèbre, on cherche l'oubli d'un parfum, d'une voix. On éteint l'impact encore brûlant de lèvres entr'ouvertes, humides et douces. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs, certains soirs, tout à coup, dans un coin, on s'arrête de rire. Et quand brusquement les larmes sortent, tout le monde dégage, se jette sur la porte en verre. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs, il y a des seringues vidées goulûment dans des bras sans avenir. Ici, la dope, c'est à la poignée. Les petites cuillères servent que rarement pour le café. Ici, chacun doucement oublie l'ombre d'une vie passée d'une femme de décombre. Dans ce cliché funèbre, on cherche l'oubli d'un parfum, d'une voix. On éteint l'impact encore brûlant de lèvres entr'ouvertes, humides et douces. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs, il y a des vieux gars tatoués partout qui racontent leurs souvenirs. Il y a des voyageurs tristes par-dessus les valises. Il y a des bookmakers qui ramassent les mises la nuit. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs, on peut tout acheter, tout vendre, le meilleur et le pire. Une vieille clocharde de la gueule défoncée entre avec sa poussette et se met à gueuler, à boire. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs.